le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, c'est l'heure de votre magazine sur les activités des Nations Unies. Voici les titres. 173 violations des droits de l'homme enregistrées en janvier dernier en RDC. C'est ce qui ressort du rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, publié mercredi dernier à Kinshasa. Tous les aspects de ce rapport dans l'actualité de la semaine. Quel est le niveau de contamination des mines antipersonnelles et armes à sous-munitions en RDC? Les résultats de l'enquête nationale sont désormais connus. La présentation a eu lieu jeudi 27 février à Kinshasa en présence des autorités nationales. Le directeur de l'UNMAC explique les enjeux de cette enquête dans notre décryptage. Cri d'alarme du PAM face aux conséquences de la violation en Centrafrique. Environ 150 000 personnes ont fui les atrocités de ce pays pour trouver refuge dans les pays limitrophes, le Cameroun, le Tchad, le Congo-Brazzaville, mais aussi la RDC, un pays qui accueille le plus de réfugiés centrafricains. Le point, ce sera avec notre invité dans cette émission.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Publication mercredi dernier du rapport sur l'état de droit de l'homme, janvier 2014 en RDC. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 173 violations des droits de l'homme, ce qui représente une diminution par rapport au mois de décembre 2013. Au cours de ce mois, en effet, 200 violations des droits de l'homme avaient été enregistrées par le BCNUDH. Ces chiffres ont été fournis mercredi dernier par Scott Campbell, directeur du BCNUDH. C'était à la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Pour Scott Campbell, les auteurs présumés de ces violations des droits de l'homme se retrouvent dans les rangs des forces de sécurité et des groupes armés. On l'écoute au micro de Jean-Pierre Elali Coco.
Les principaux auteurs des violations des droits de l'homme enregistrées par notre bureau au cours du mois de janvier 2014 sont les militaires des forces armées de la RDC, la FARDC, qui serait responsable de près de 36% du nombre total des violations des droits de l'homme enregistrées, tandis que les agents de la police nationale congolaise seraient responsables d'environ 27% du nombre total des violations des droits de l'homme enregistrées. Les combattants des groupes armés seraient responsables, quant à eux, d'environ 28% du nombre total de violations des droits de l'homme enregistrées par notre bureau au cours du même mois. On note bien que beaucoup de ces violations ou des allégations de violations commises par des groupes armés ont lieu dans les zones très reculées. Et évidemment, nous n'avons pas la capacité de documenter toutes ces violations, mais que nous spéculons sont beaucoup peu. Nous avons noté avec préoccupation, pendant le mois de janvier, la persistance des violations des droits de l'homme à l'encontre des journalistes, donc vos collègues, et des défenseurs des droits de l'homme.
Les provinces les plus touchées par les violations de droits de l'homme en janvier ont été le Nord Kivu et la province orientale. Toutefois, il faut noter que les chiffres évoqués par le BCNUDH sont loin de donner un aperçu complet des violations de droits de l'homme en RDC. Il s'agit ici, faire remarquer Scott Campbell, des données relatives à des cas recensés et bien vérifiés par le bureau.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Présentation jeudi 27 février des résultats de l'enquête nationale sur la contamination des mines antipersonnelles et des armes à sous-munitions à Kinshasa. C'était en présence du ministre de l'Intérieur, de l'ambassadeur du Japon et des gouverneurs de province ou de leurs représentants. L'objectif de cette enquête était de permettre à la RDC de disposer de données fiables et complètes sur la contamination par mines et armes à sous-munitions. Selon les résultats de cette étude, 130 zones soupçonnées dangereuses sont minées pour une surface d'1 300 000 mètres carrés sur toute l'étendue du pays. Et toujours d'après l'étude, 8 provinces sur un total de 11 sont contaminées par les mines. Le directeur de l'UNMAC parle de ces résultats et des principaux défis de la lutte anti-mines en RDC. Pascal Simon s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Pascal Simon, bonjour.
Bonjour.
L'UNMAC, votre organisation, a présenté jeudi 27 février dernier les résultats de l'enquête nationale sur la contamination des mines antipersonnelles et des armes à sous-munitions. D'abord, qu'est-ce qu'est une mine antipersonnelle et quand parle-t-on des armes à sous-munitions?
Alors, une mine antipersonnelle, c'est un engin explosif qui est conçu pour exploser du fait de la présence ou du contact d'une personne et qui est destiné à mettre hors de combat, à blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Alors, l'arme à sous-munition, c'est un autre type d'arme qui est également appelée parfois bombe à sous-munition. Il s'agit en réalité d'un conteneur qui transporte de nombreux autres projectiles explosifs de taille plus réduite qu'on appelle spécifiquement des sous-munitions. Généralement, ces armes à sous-munitions sont lancées par les avions et le conteneur s'ouvre pendant la chute de cette arme et disperse sur le sol des petites bombes qu'on appelle des sous-munitions et qui sont censées exploser à l'impact. L'objectif est évidemment de mettre hors de combat les troupes ennemies qui sont visées par ces armes. Le problème des armes à sous-munitions, c'est qu'un grand nombre d'entre elles, un pourcentage important, parfois plus de 30%, n'explosent pas à l'impact, restent sur le sol et donc constituent un danger pour les populations civiles qui veulent réoccuper ces zones par la suite.
Autant dire que les armes à sous-munitions sont aussi dangereuses que les mines antipersonnelles.
Absolument, et c'est pour cette raison que les Nations Unies essaient de les interdire. Il y a d'ailleurs deux conventions internationales relatives à ce type d'armes. Il y a la convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles que vous connaissez, qui est la convention d'Ottawa, qui interdit l'acquisition, la production et l'utilisation des mines antipersonnelles. Et puis il y a une convention plus récente sur les armes à sous-munitions, qui est un traité international humanitaire de désarmement, qui interdit totalement l'emploi, la production, le stockage et l'usage évidemment des armes à sous-munitions. C'est la convention qu'on appelle la convention d'Oslo. Il y a 84 États qui sont partis à cette convention aujourd'hui.
Revenons un peu à l'enquête qui a été menée, alors qu'il existait d'autres enquêtes menées en 2009, notamment.
Alors effectivement, nous avions conduit entre 2009 et 2012 des évaluations sur la contamination par mine et engins non explosés sur environ un tiers du territoire national de la RDC. Toutefois, nous nous sommes aperçus que, en raison de la méthodologie utilisée, ces opérations étaient finalement assez lentes et très coûteuses. Et il aurait été illogique, selon nous, de continuer à dépenser plus d'argent pour effectuer des enquêtes que ce que coûtera réellement et effectivement les opérations de déminage par la suite. Nous avons donc changé de méthodologie en 2012 et nous avons adopté un système plus rapide, plus efficace, plus moderne en fait, qui tient compte des nouveaux standards internationaux relatifs aux enquêtes non techniques dans la lutte anti-mine et qui est notamment basée sur la collecte d'opinions d'experts.
Et quelle a été la durée de cette enquête?
Alors, nous avons effectué cette nouvelle enquête durant la seconde moitié de 2013 et sur le premier trimestre de 2014, nous avons collecté les données et nous avons rédigé le rapport qui a été donc remis aux autorités nationales la semaine passée.
Oui, c'était jeudi précisément.
Oui.
Alors, quelles sont les difficultés que vous avez trouvées sur le terrain? C'est quand même un travail, il faut dire, très difficile sur le terrain.
Oui, alors c'est d'abord un gros travail d'organisation. Il faut que la logistique soit en place, il faut que les moyens de communication soient en place aussi. Donc ça, c'était évidemment les grosses contraintes. Et parfois, il faut le dire aussi, la sécurité n'était pas toujours garantie. Donc il y a des très petites zones que nous n'avons pas pu enquêter. Par exemple, du côté de Dungu, suite à la présence de l'arrêt, nous n'avons pas pu envoyer nos équipes d'enquêteurs. Mais d'une manière générale, nous avons enquêté tout le territoire de la République. Et la nouvelle enquête a donc été conduite dans toutes les zones qui n'avaient pas fait l'objet des évaluations passées, soit les deux tiers restants du pays.
Est-ce que vous pouvez parler précisément des quelles zones concernées particulièrement?
Alors, parmi les zones qui sont identifiées comme étant affectées par la contamination par mine, c'est surtout les provinces de l'Équateur, du Katanga, du Kasaï occidental et de la province orientale. Ces quatre provinces-là concentrent à elles quatre plus de 80% des zones contaminées.
Ah mais c'est quand même paradoxal, monsieur, parce que récemment, il y a eu des conflits au nord et au sud Kivu, et ces zones ne sont pas à la tête du peloton.
C'est vrai, vous avez raison, on pose souvent cette question, mais en réalité, la contamination par mine tient son origine surtout des deux guerres du Congo, donc dans la période 1996-2002. Je reviendrai tout à l'heure sur la contamination par arme à sous-munitions, mais surtout les mines antipersonnelles qui ont été utilisées dans ces deux guerres du Congo. En réalité, dans les conflits plus récents au Kivu, nous n'avons pas documenté d'usage de mines antipersonnelles par les groupes armés illégaux. Une petite remarque toutefois, il semblerait que dans le conflit avec l'ADF, les FARDC soient confrontés à ce qu'on appelle des engins explosifs improvisés.
C'est-à-dire?
Il s'agit par exemple de grenades qui sont piégées pour blesser ou tuer des troupes en mouvement dans la zone. Mais nous n'avons pas documenté d'usage de mines antipersonnelles.
Bon, revenons sur l'enquête, Pascal Simon. Quels sont maintenant les résultats? D'une façon assez succincte, vous pouvez parler des résultats de cette enquête.
Oui, il y a 130 zones qui ont été identifiées sur tout le territoire national.
130 zones.
130 zones contaminées par les mines et les armes à sous-munitions, mais il y a très peu de zones affectées par les armes à sous-munitions, seulement 5. Donc une grosse majorité, ce sont les mines antipersonnelles. Et ça représente environ 2 millions de mètres carrés, soit 2 kilomètres carrés en tout, ce qui représente, pour donner une idée quand même, environ 300 terrains de football. Donc on a une contamination qui est assez modeste, mais qui est très dispersée.
À travers le pays.
À travers le pays, oui.
Un travail comme celui-là demande beaucoup de moyens. Quel est le coût de cette enquête?
Alors le coût de l'enquête qu'on a effectuée en 2013 avoisine 1,5 million de dollars. Le donateur principal était le Japon, que nous remercions évidemment de son soutien à cette occasion.
Et même lors de la cérémonie, j'ai vu la présence de l'ambassadeur du Japon.
Exactement, le Japon était vraiment très très important pour nous, c'était notre donateur principal.
Et d'autres partenaires qui ont contribué à cela?
Oui, alors l'enquête est organisée de manière à ce que 4 organisations internationales ont été contractées et coordonnées par UNMAC. Il s'agissait de Handicap International, DCA, MAG et NPA. Et chaque organisation internationale coordonnait spécialement des organisations nationales dans les zones dont elles étaient responsables. Ces organisations nationales sont nos partenaires habituels, Afrilam, SILAM, La Croix-Rouge, Badou, SLAMES, etc.
Donc ce sont des organisations qui fonctionnent en République démocratique du Congo.
Tout à fait.
Et puisqu'on parle de mines antipersonnelles, quand est-ce que la RDC pourra être déclarée pays sans mines antipersonnelles, Monsieur Pascal?
Alors ça c'est vraiment le résultat le plus important de l'enquête, c'est qu'elle va nous permettre d'élaborer un plan de déminage systématique et de mobiliser les ressources pour les opérations de déminage. On pense que cela prendrait environ 5 à 6 ans et que cela coûterait environ 20 à 25 millions de dollars. Tout ce travail de planification se fait avec les autorités nationales, en particulier le Centre congolais de lutte anti-mine, qui est attaché au ministère de l'Intérieur. Donc il est tout à fait réaliste de dire que la RDC pourrait assez rapidement satisfaire aux obligations de la Convention d'Ottawa.
Alors, vous parlez justement de la Convention d'Ottawa. Est-ce que cette convention prévoit des sanctions ou même des contraintes vis-à-vis des pays qui sont à la base de la fabrication, de la prolifération ou même de la commercialisation des mines antipersonnelles ou d'autres engins explosifs?
Bien, malheureusement, non. Comme souvent dans le droit international, il n'y a pas vraiment de sanctions véritables. Ce sont plutôt des condamnations morales ou des pressions des autres États.
Voilà. Et toute dernière question, les mines antipersonnelles sont des engins très dangereux. Mm-hmm. Et est-ce que on peut avoir une idée sur le nombre de victimes ici en République démocratique du Congo?
Alors, nous avons enregistré dans notre base de données un total de 2500 victimes de mines antipersonnelles et d'engins explosés. Donc, ça fait environ, pour le moment, dans ces dernières années, une quinzaine de victimes par an.
Voilà, Monsieur Pascal Simon, je peux vous dire que merci.
Et merci à vous.
Nos nouvelles en bref à présent, commençons par le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, qui a entamé mardi dernier la distribution de nourriture à plus de 74 000 personnes retournées et leurs familles d'accueil à Kamango et à Nobili, à Beni. Selon le communiqué du PAM, plus de 600 tonnes de nourriture seront distribuées pour un mois à ses bénéficiaires pour couvrir les besoins alimentaires de ces populations qui ont raté la saison de culture en octobre dernier. C'est ce qu'a déclaré Martin Olsen, représentant du PAM en RDC. Plus de 30 paysans, membres de 15 associations du territoire de Massissi au Nord Kivu, sont devenus dresseurs de jeunes bovins castrés à l'issue d'une formation sur la traction animale initiée par la FAO, clôturée vendredi 28 février dernier. Pendant 40 jours, ils ont appris à s'occuper de 30 de ces animaux acquis et mis à leur disposition par la FAO à raison d'une paire d'animaux par association. Au terme de cette formation, toutes les bêtes dressées ont été capables de tirer les charrettes. Objectif principal de cette activité, considérée comme projet pilote dans ce territoire, a confirmé récurrent et pourtant à vocation agropastorale, de soulager les peines des femmes rurales qui transportent de lourdes charges sur de grandes distances. La traction animale permettra également de faciliter l'évacuation des produits agricoles et de redynamiser les activités économiques de ce territoire, dont les conditions socio-économiques la maintiennent parmi les entités les plus pauvres de la province. Donc, l'unité genre du CNUD a organisé un séminaire sur le processus de Gender Equality Seal du 24 au 26 février dernier à Kinshasa à l'intention du staff masculin et féminin du CNUD. Ce séminaire visait notamment à présenter la nouvelle stratégie de l'équité genre du CNUD et à intégrer de manière systématique et transversale le genre dans tout processus de formation.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Plaidoyer du PAM, Programme Alimentaire Mondial en faveur des réfugiés centrafricains éparpillés dans quatre pays limitrophes de la Centrafrique, à savoir le Tchad, le Cameroun, la République du Congo et la RDC. Ce dernier pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, est le plus touché par l'afflux des réfugiés centrafricains. Il serait 60 000 actuellement, selon un communiqué du PAM publié le 25 février dernier. Pour ce qui est de la RDC, les donateurs et d'autres partenaires devront débourser une bagatelle somme de 6 millions de dollars américains pour faire face à cette crise due à l'exode causé par la violence en Centrafrique. Claude Kalinga, chargé de communication au PAM RDC, est notre invité. Il revient sur ce plaidoyer, les besoins urgents de l'aide humanitaire ainsi que les défis à relever dans les quatre pays qui accueillent les réfugiés centrafricains. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Claude Kalinga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Pierre.
Vous êtes chargé des communications au PAM RDC. Dans un communiqué publié le 25 février, le PAM s'inquiète d'une crise régionale due à l'exode causé bien sûr par la violence en Centrafrique. Alors, première question, quels sont les pays touchés par cet exode?
Il y a à peu près 4 pays qui sont le plus touchés. Nous avons le Tchad, nous avons le Cameroun, et la RDC et la République du Congo en face. Mais de ces 4 pays, c'est notre pays qui a reçu jusqu'ici et continue à recevoir le plus grand nombre de personnes, de réfugiés.
C'est à combien on peut les estimer?
Oh, c'est 62 000 réfugiés actuellement sur notre territoire.
Donc ce sont des réfugiés centrafricains.
Exactement.
Vous savez que la RDC, c'est l'un des pays limitrophes de la RCA. Alors comment se présente la situation de ces réfugiés, de ces 72 000 réfugiés centrafricains?
Qu'il s'agit là de
62 000.
Voilà.
Ok. Donc, merci pour la précision.
Oui, les HR continuent à recevoir bien d'autres qui traversent et au fil de jour. Donc, ils sont, comme vous savez, nous partageons une très bonne, frontière avec ce pays voisin. Et les réfugiés traversent par plusieurs points d'entrée. Donc, au jour d'aujourd'hui, non seulement qu'ils se retrouvent à l'Équateur, mais également en province orientale. Donc, en province orientale, il y a environ 700 personnes vers Ango. Mais la plus grande partie des réfugiés se trouve sur le territoire, de l'Équateur.
Claude, quels sont les besoins alimentaires les plus urgents pour ces réfugiés centrafricains?
Vous savez que lorsqu'on quitte son pays, on abandonne tout et on ne peut compter que sur les humanitaires. Donc il y a un problème très important de besoins en aliments, en vivres, en nourriture.
Il y a essentiellement aussi, en nourriture.
En nourriture, oui. Évidemment, sans compter qu'il y a aussi des biens non alimentaires dont les gens ont besoin, mais aussi il y a la situation nutritionnelle qui n'est pas très très bonne pour les petits enfants et les femmes enceintes et les femmes allaitantes.
C'est ce qu'on appelle les personnes vulnérables.
Exact.
Alors, selon les communiqués, il faut une bagatelle somme de 6 millions de dollars pour pouvoir répondre aux besoins alimentaires de ces personnes extrêmement vulnérables en République démocratique du Congo. Où trouver alors de l'argent pendant que le PAM réduit certains de ses programmes faute de financement? Et ce n'est pas une grande difficulté pour vous?
Le PAM est en train de passer par des moments difficiles en ce qui concerne les ressources financières, mais nous sommes confiants que nos partenaires, que nos donateurs vont continuer à nous faire confiance. Au jour d'aujourd'hui, nous continuons les plaidoyers. Avec ces plaidoyers, nous avons déjà des retombées. Et nous avons la France, notamment, qui nous a donné 500 000 euros. Et il y a aussi l'Irlande, juste pour apporter à manger à ces personnes qui se trouvent sur les territoires congolais.
Mais il faut reconnaître que cette crise n'est pas seulement en RDC, mais dans les pays que vous avez cités. Il y a la République du Congo en face, il y a le Cameroun et il y a aussi Tchad.
Exact.
Et comment vous allez faire face à ces aides d'urgence?
Exactement. Donc au niveau de chaque pays, le PAM existe. Mais au jour d'aujourd'hui, le PAM est en train de considérer cette situation situation comme étant une crise régionale. Donc, il y a une approche régionale qui est mise sur pied pour pouvoir répondre de manière intégrée, n'est-ce pas, aux besoins de toutes ces personnes qui se sont déplacées.
Toute une dernière question. Quels sont les principaux défis à relever concernant l'aide alimentaire à ces réfugiés centrafricains?
Bon, le plus grand défi auquel le PAM et d'autres partenaires face, c'est qu'il y a d'abord le problème logistique. Et vous savez que nous avons un sérieux problème d'infrastructure. Donc, pour déplacer nos vivres, pour même le transport de ces personnes, ces réfugiés, donc, ça pose énormément de problèmes logistiques. Mais, en dépit de tout cela, le PAM fait beaucoup d'efforts, ainsi que ses partenaires, pour arriver, n'est-ce pas, à répondre aux besoins alimentaires de ces personnes.
Oui, parmi les pays contributeurs, jusque-là, vous avez cité la France et la Suède. Est-ce que vous avez un message à lancer au reste des partenaires qui doivent intervenir pour aider ces réfugiés centrafricains qui sont éparpillés dans 4 pays limitrophes de la RCA?
Exact. Donc, je parlais tout à l'heure de la France et de l'Irlande.
C'est l'Irlande, excusez-moi.
Exactement. Oui. Donc, évidemment, nous sommes en contact avec tous nos partenaires traditionnels et bien d'autres partenaires donateurs qui veulent bien voler au secours de ces personnes à travers le PAM.
Et le message?
Et le message, c'est que nous demandons que nos partenaires continuent à nous faire confiance. Nous sommes prêts à pouvoir voler au secours de ces personnes. D'ailleurs, nous sommes déjà là et le PAM est en train d'ouvrir une autre antenne à Libengue, en dehors de celle qui est à Guado, et pour aussi à Dungu, pour essayer de répondre urgemment aux besoins de ces personnes. Donc, nous demandons aux donateurs du PAM et à bien d'autres bienfaiteurs de venir au secours de ces réfugiés en contribuant, n'est-ce pas, aux ressources du PAM pour répondre de manière efficace et prompte aux besoins de ces personnes.
Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions M. Claude Kalinga, qui est chargé de communication au PAM RDC, et nous parlions de la crise régionale due à l'exode des réfugiés centrafricains qui sont dans 4 pays limitrophes de ces pays. Claude Kalinga, je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean-Pierre.
La nouvelle de province nous vient de Pueto, dans la province du Katanga, où une unité d'intervention des casques bleus égyptiens de la MONUSCO a été déployée mercredi. Nous sommes à 450 km au sud-est de Kalemi. La chef de bureau de la MONUSCO Kalemi, Alessandra Trabatoni, a effectué une mission sur place pour assister à cette opération. L'administrateur du territoire de Pueto se dit encouragé par cette présence. François-Xavier Mibé a vécu l'événement. Voici son reportage.
C'est l'Hercule, le 130, un gros porteur de la MONUSCO, transportant des engins roulants et des troupes qui a atterri le premier autour des 13h sur la piste de l'aéroport Moanqué de Pueto. Un aéronef conduisant la délégation partie des Kalemi a suivi, et enfin, un hélicoptère Puma, bourré de munitions, a fermé le bal sous le regard de l'administrateur de territoire, Célestin Gombe.
Ça fait longtemps qu'on attendait cette force. En fin de compte, aujourd'hui, elle est là.
Le déploiement de l'unité d'intervention des casques bleus égyptiens de la MONUSCO ouvre la voie à l'appui aux opérations militaires entamées à mi-février par les FRDC dans la zone. Pueto a aujourd'hui du mal à administrer une bonne partie de son étendue au nord et au nord-ouest occupée par les Maïmaï Katakatanga. Une douzaine de chefs Maïmaï, dont Selita, une femme Maïmaï, écume et incendie les maisons dans cette partie provoquant les mouvements des populations. Un officier des FRDC a indiqué que les opérations militaires contre les Maïmaï Katakatanga se poursuivent normalement. Mais toutefois, il s'inquiète que les Maïmaï Katakatanga se camouflent parmi les populations civiles dans les zones de conflit. Pendant ces temps, les écoles ont fermé leurs portes. La faiblesse de la réponse humanitaire est aussi ressentie dans la région. François-Xavier Mibé, des retours de Pueto, Radio Capi.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Lydie Bettina Ipanga, je suis célibataire, j'ai un fils de 2 ans et 8 mois, il s'appelle David, je l'embrasse d'ailleurs. Je suis licenciée en communication sociale des facultés catholiques de Kinshasa, option information et communication, et j'ai aussi un diplôme spécial de l'école supérieure de journalisme de Lille en France. dans la spécialisation journalisme multimédia, donc web et multimédia. Et j'ai la chance de travailler justement dans ce domaine au sein de Radio Okapi, la radio des Nations Unies. Je fais partie de l'équipe qui se charge de mettre à jour ce site, les informations, les émissions, les sons, les audios, parfois les vidéos. C'est un travail que nous faisons avec plaisir. Pour ma part, dès que je suis là le matin, il faut mettre la revue de la presse. Donc ce dont les journaux ont parlé, ce qui a intéressé les journaux qui ont paru ce matin-là. À part la revue de la presse, il y a l'émission Invité du jour, où une personnalité en particulier donne son point de vue sur une question d'actualité. On le met sur le site. Ensuite, il y a les informations du matin déjà qu'il faut traiter, il faut les réécrire. Ils viennent ceux qui passent sur les ondes, sur la FM, qu'il faut réécrire, adapter à l'écriture web et illustrer des images, des liens. Mettre sur le site de Radio Okapi. Ensuite, il y a une chronique dont je m'occupe, c'est la chronique Actualité internationale qui passe tous les jours après le flash de 12h30 vers 12h33 minutes. Donc c'est un peu les informations qui passent en FM, voilà, les informations sur l'actualité à travers le monde, en Afrique et en Europe. Voilà. Avant de venir à Radio Okapi, j'ai travaillé pendant un bref moment dans un parti politique dont je tairai le nom comme secrétaire. Et c'était très bref, juste après mes études. J'ai travaillé pendant 5 mois ou 6 mois. Ensuite, je suis directement venue à Radio Okapi pour être journaliste web. Donc on doit dire que j'ai directement commencé là. Et c'est pour ça que 3 ans plus tard, j'ai décidé d'aller me spécialiser toujours dans ce domaine parce que j'ai trouvé que c'était un domaine d'avenir. Le web, le multimédia, c'est un domaine qui n'est pas encore très développé ici. On a beaucoup de télévision, on a beaucoup de radio, mais des sites internet, d'information, d'actualité. On peut dire que le site de Radio Okapi, c'est le premier site ici d'actualité ici en RDC. Et je pense qu'on peut encore faire plus. Donc c'est un domaine d'avenir et j'ai choisi de me spécialiser donc dans le multimédia. Donc j'ai eu l'occasion de faire des stages quand même dans des médias internationaux. J'ai été à l'AFP, l'agence France Presse. J'ai été dans un média régional français, La Voix du Nord.fr, c'était toujours du multimédia. J'ai aussi participé à un projet quand même intéressant qui réunissait des jeunes Congolais, congoblog.net. On racontait un peu tout ce qui se passait en RDC. Il y avait des correspondants à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, à Kisangani, un peu partout. Voilà, donc depuis, après ma formation, je suis revenue à Radio Okapi en 2011 et depuis, je suis là. Voilà. Alors, en ce qui concerne mon temps libre, je ne pratique pas beaucoup de sport, mais mon sport préféré, c'est le cyclisme. J'ai grandi à Boamanda pendant un moment avec mon père à l'Équateur. C'est dans la province de l'Équateur, c'est une mission catholique. Et là-bas, on se déplaçait souvent à vélo. Donc, on m'a mis sur le vélo très jeune et jusqu'à aujourd'hui, c'est une passion. Quand j'en ai l'occasion, je pratique du cyclisme. Et j'aime aussi la natation. Bon, je ne sais pas très bien nager, mais j'aimerais m'améliorer dans ce domaine. Pour la musique, j'ai des goûts un peu difficiles, on va dire. Un peu difficiles. Mais j'écoute quand même de la musique, du gospel surtout. C'est une musique que j'aime beaucoup. Et j'ai eu la chance quand même d'être dans des chorales. Et d'apprendre à chanter dans les chœurs et ainsi de suite. je sais pas, y a rien qui arrive pour chanter là. Alors qu'est-ce que je compte faire dans l'avenir? Je pense que le domaine du multimédia est très prometteur ici en RDC. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se faire. Pourquoi pas créer mon entreprise qui est de promotion sur le multimédia. Je pense à une agence pour la création de l'image des entreprises, des personnes, personnalités politiques sur le web. Donc c'est des possibilités comme ça dans le domaine du web. Et moi un jour j'aimerais répondre, à donner des solutions à ce genre de problème. Merci beaucoup.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Les drones de la MONUSCO, la question est revenue au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier. Cette fois, l'intérêt est porté sur le carnet de santé de ces engins sans pilote.
Alain Mouzi pour la télévision Sango Malamu. Je voudrais avoir le carnet de santé des drones déployés dans l'est de la RDC. Comment fonctionne-t-il? Quel genre d'informations ces drones vous livrent? Et ces avions sans pilote sont téléguidés à partir d'où exactement?
Écoutez maintenant les explications du commandant adjoint des forces de la MONUSCO, le général Jean Bayot.
Je commencerai par dire tout d'abord, d'un point de vue militaire de la MONUSCO, notre extrême satisfaction de pouvoir disposer, avec l'approbation des autorités de ce pays, de ces moyens, qui sont actuellement en cours de développement, on va dire, de leur capacité. Ils ont déjà apporté à l'exécution militaire, mais aussi diverse, on va dire, de la MONUSCO, un certain nombre d'éléments très importants. Et nous sommes également très optimistes sur le fait que cet outil nouveau va permettre d'être encore plus utile dans les opérations à venir. Pas uniquement sur le plan militaire, pour pouvoir s'assurer de la précision de nos opérations et avoir, avec les FRDC, le développement de modes opératoires efficaces et qui tiennent aussi compte non seulement de la sécurité des populations, mais aussi de la vie des FRDC, qui est aussi importante lorsqu'ils mènent des actions de combat. La deuxième chose, c'est que nous pouvons suivre des situations criminelles, mais aussi suivre et peut-être anticiper des déplacements de population. Et donc, nous pouvons voir quelles sont les conséquences éventuelles de l'action de groupes armés négatifs par rapport à ces populations et pouvoir réagir au mieux. Maintenant, il faut quand même être honnête, nous ne pouvons pas voir partout, et c'est pour cela que nous complétons et développons, on va dire, cette capacité, et nous la complétons par d'autres modes que nous utilisons déjà depuis quelque temps et qui sont extrêmement utiles, je peux vous le dire maintenant, même si je ne vous dévoilerai pas effectivement le détail de ce qu'ils apportent à nos décisions, mais aussi à la conduite de nos opérations.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
À noter dans votre agenda, le 11 mars, c'est la journée mondiale de la plomberie, et du 10 au 14 mars, le Fonds mondial pour le développement agricole, FIDA, organise un atelier sur le projet d'appui au pôle d'approvisionnement de la ville de Kinshasa en produits maraîchers et vivriers. La fin de ce magazine, c'était un réel plaisir de vous le concocter, de vous le présenter au micro. Mila Kimbuni à la régie, Dieudonné Nyangasa et à la coordination ainsi qu'au reportage, Jean-Pierre et Lali Coco. Vous nous avez pris de court, pas de panique. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site web de Radio Kapi, www.radiokapi.net. À tout moment, vous avez des suggestions, des questions ou des remarques, postez un commentaire sur Internet sous l'émission ou encore appelez-nous au 082 30 76 630. 082 30 76 630. Vous pouvez toujours aussi nous écrire à notre adresse mail que vous connaissez maintenant, magun@radiokapi.net. Rendez-vous le dimanche prochain. Entre-temps, je vous souhaite une excellente journée dominicale à tous.